Vous écoutez
RMC. RMC, 9h10h.
Votre vie numérique.
François Sorel.
Raphaël Grabli.
C'est le retour de ce week-end des experts, la vie numérique, bien sûr, vous le savez, on est là chaque samedi entre 9h et 10h avec bien évidemment toutes vos questions. Vie numérique, Raphaël Grabli est là pour ça, hein. Il est là pour vous aiguiller, pour vous conseiller, pour vous éviter parfois de faire des achats, j'allais dire bêtes. Bah oui, mais on fait tous des bêtises. Hein,
on peut se tromper, on peut toujours se tromper.
Surtout quand on investit 100, 200, 300, 400, 500, 1000 euros parfois dans un achat dédié à la tech. Donc n'hésitez pas à appeler nous, 3216, l'appli RMC Direct Studio. Tout à l'heure donc, notre gros dossier, on va prendre le temps, Raphaël, d'évoquer tout ça. Eh bien, c'est tous les nouveaux smartphones qui sortent. Alors, on va se focaliser pendant quelques minutes sur l'actualité brûlante. Ce sont les nouveaux iPhones qui ont été annoncés mardi dernier, les iPhone 12.
Oui, les iPhone 12, les iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 mini aussi, un petit smartphone, hein, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de petit smartphone haut de gamme, donc une nouvelle gamme chez Apple dont on va parler, une gamme 5G, on va se demander si vraiment c'est intéressant aussi d'avoir un smartphone 5G en 2020 en France, c'est important, mais on va aussi parler d'une autre marque, qui est dans l'actualité, c'est Google qui vend beaucoup moins de smartphones, mais qui fait des smartphones absolument incroyable. On va en parler.
Est-ce que ça serait pas la petite perle de cette fin d'année, ce
pour
Pixel?
Moi, c'est indéniable et je suis très content qu'on prenne le temps aussi de parler de Google. Et on va aussi parler des autres marques, des outsiders. Alors, on peut parler de Samsung aussi parce que Samsung a aussi une actualité avec le Samsung Galaxy S20 FE qui est une version moins chère de son smartphone qui est très intéressante aussi. Et puis, il y a d'autres marques dont j'avais parlé la semaine dernière d'ailleurs. Il y a OnePlus notamment qui arrive avec un mobile qui est très intéressant. Donc, il y a une énorme actualité de smartphone et beaucoup de choix.
Et Nicolas Lelouch, qui est journaliste à 01net, nous rejoindra tout à l'heure parce que lui, alors c'est son job, il teste à longueur d'année des smartphones et il nous donnera un petit peu son sentiment sur ce qu'il faut acheter ou pas. Est-ce qu'on est obligé de dépenser 1000 euros pour avoir un bon smartphone ou est-ce que finalement, pour quelques centaines d'euros, on peut avoir quelque chose qui tient la route? Si vous avez des questions, profitez-en, ça commence déjà à frissonner hein, d'ailleurs sur Direct Studio. Vous avez donc l'appli RMC sur smartphone justement ou bien le 3216, le standard RMC. On va retrouver tout à l'heure ton conseil aussi. Tu vas nous mettre en garde concernant les fausses attestations qui commencent à pulluler sur le web, hein, Raphaël. Mais auparavant, on accueille Mathieu qui est avec nous au 3216. Bonjour Mathieu.
Bonjour François.
Bonjour Mathieu.
Bonjour tout le monde.
Bienvenue Mathieu. Alors vous allez devancer un peu notre dossier qu'on va ouvrir dans quelques minutes. Hein. On va parler smartphone avec vous, c'est ça hein?
Ouais, exactement. Mais en fait, je crois que l'émission a tombé bien aujourd'hui avec votre programme parce que j'avais une question à vous poser à tous les deux. J'ai actuellement un iPhone 11 Pro Max.
Ouais.
Donc je suis super content. J'ai toujours eu des iPhones depuis l'iPhone 5, donc je les change tous les ans. Donc assez Apple addict mais c'est vrai que là depuis quelques temps j'en reviens un peu en fait où je trouve que c'est déjà très cher, donc ça nécessite aussi d'avoir un gros forfait pour le renouveler tous les ans et je regarde depuis quelques mois sur internet et il y a une marque qui me fait de l'œil, c'est Xiaomi.
Ah, d'accord. Donc, passer d'Apple à Android, en fait. C'est
exactement.
C'est pas anodin, hein. Là, vous allez changer de pays.
D'hiver, là.
Oui, complètement. Après, j'ai vu, hein, c'est qu'il y a les choses qui me faisaient rester sur Apple. Mais maintenant, les Android le font, hein, comme du cloud.
Ils avaient beaucoup de fichiers dans le cloud d'Apple et puis il faudrait tout transférer. Bon, après, ça se fait, hein, mais c'est vrai que c'est plus que changer d'univers. Enfin, il y a changer d'interface, il faut s'y habituer, mais il y a aussi changer.
Oui, bien sûr.
L'écosystème, c'est ça qui est le plus dur.
Mathieu, vous êtes intéressé par quel smartphone qui pourrait vous faire passer du côté Android?
Mais par celui qui est en précommande depuis hier chez Xiaomi, c'est le Mi 10 T Pro.
Mi 10 T Pro.
Voilà. Et alors c'est vrai que si ça m'intéresse, c'est donc aussi parce que l'offre en précommande est quand même assez exceptionnelle.
Ouais.
Sans faire de la pub à Xiaomi. Hein,
mais
sur un téléphone
y a pas de problème,
à 600 euros, il vous offre entre guillemets une trottinette électrique de 300 euros. Donc l'offre est super alléchante.
Oui, c'est vrai qu'il y a des promos en ce moment intéressantes,
c'est dingue,
ça c'est clair.
Et, mais le truc, c'est que sur Internet, impossible de trouver un réel comparatif sur ces deux téléphones-là. Alors, ce qui est peut-être normal, parce que le téléphone n'est pas encore sorti, exactement. Donc, j'ai chopé quelques infos pour moi, et après, je voudrais avoir votre avis à vous. Mais pour moi, la grosse différence, elle se situerait au niveau de l'écran, où je passerai d'un écran de très, très bonne qualité sur l'iPhone sur un écran LCD qui, même s'il a de bonnes caractéristiques, reste du LCD. Donc, je voudrais avoir votre avis là-dessus.
Alors, oui, je suis assez étonné d'ailleurs qu'ils ne mettent pas de l'OLED là-dessus, Xiaomi. Après,
alors, l'OLED, c'est la technologie d'écran, qui est une technologie, on va dire, c'est ce qu'il y a de mieux en matière de qualité,
on a un taux de contraste absolument infini. D'ailleurs, tous les iPhones sont maintenant sous OLED. Après, moi, j'ai quand même une question, Mathieu. Pourquoi changer aussi? Parce que vous avez quand même l'iPhone 11 Pro Max.
Oui, qui est un
donc
super
vous avez
téléphone.
Le téléphone Apple dernier cri, j'ai envie de dire. Ou alors, c'est pour le revendre et pour économiser de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Pour acheter moins cher le Xiaomi qui coûte 600 euros, il me semble, ou 700?
Eh bien, c'est exactement ça, en fait. Je me dis que mon téléphone, je peux le revendre. Et du coup, après, me changer aussi que mon forfait pour avoir quelque chose aussi de plus économique,
ouais,
tout en gardant un téléphone
puissant,
premium. Et après, j'ai une seconde question qui en découle, parce que comme je vous ai dit que j'étais Apple addict, donc j'ai bien sûr l'Apple Watch. Et au niveau de la montre, je me suis renseigné également un petit peu. La Galaxy Watch 3 pourrait me convenir.
Ouais.
Et j'ai peur qu'il y ait des incompatibilités sur certaines fonctions de la montre. Si j'achète un téléphone Xiaomi et la montre Samsung.
Ouais. Alors, ce qui est vrai, ça c'est un avantage d'Apple, c'est qu'ils ont un écosystème qui contrôle parfaitement. Donc, si on veut une montre connectée, c'est vrai que iPhone et Apple Watch, on ne prend pas de risque.
Ouais. C'est imbattable.
C'est vrai que c'est imbattable. Après, l'écosystème Samsung, c'est vrai que sur les montres connectées Samsung sont excellentes. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir un Samsung parce que l'univers Android est toujours morcelé. Moi, le Xiaomi Mi 10T, il est très bien en rapport qualité-prix parce qu'il est effectivement pas très cher, il est compatible 5G, même si pour la France c'est pas forcément indispensable. Après, moi, vendre aujourd'hui un iPhone 11 Pro Max, j'ai peur que Mathieu ne fasse pas une superbe affaire parce que finalement, il va le vendre, ça va être vendu dans les 800 euros. Donc finalement, Mathieu va engranger entre guillemets que 200 euros. Donc je trouve que c'est un peu dommage, voilà, parce que c'est un smartphone qui a une énorme durée de vie et l'écran reste OLED, sera meilleur quand même. Je sais pas ce que je recommanderais à première vue, même si les Xiaomi sont très bons. Et puis après, il y a un détail aussi. Alors celui-là, je l'ai pas encore testé et on pourra peut-être demander à Nicolas Lelouch d'ailleurs tout à l'heure qui l'a peut-être testé. Mais sur la photo, Xiaomi, par exemple, n'est pas aussi bon que les autres.
Par exemple, il n'y a pas de téléobjectif sur
l'iPhone. Il n'y en a pas sur l'iPhone non plus. Mmh. Mais après, sur le grain, la qualité de la photo, c'est pas toujours évident. Xiaomi, je trouve ça bien quand on veut vraiment aller prendre un smartphone d'entrée de gamme. Sur les hauts de gamme, Xiaomi, ils sont en progression, c'est vrai, mais c'est pas encore ce que je recommanderais. Mais on posera aussi la question à Nicolas Lelouch, peut-être qu'il donnera aussi son avis là-dessus. Moi, en tout cas, le conseil, c'est pas revendre son iPhone à moins de le revendre à un très bon prix, c'est-à-dire à plus de 900 euros. Sinon, je trouve c'est un peu dommage pour un téléphone qu'on a acheté il y a moins d'un an et qui en plus va avoir beaucoup de mises à jour, des mises à jour pendant 5 ans, qui est très puissant. Donc vraiment, sur la durée de vie, il n'y a pas tellement de problèmes là-dessus.
Donc ouais, voilà. C'est compliqué là.
C'est un cas très particulier.
Surtout qu'il y a l'écosystème montre connectée, ouais, etc. Donc
de façon générale, je recommande quand même, si on veut une montre connectée, de rester dans le même écosystème, soit Apple, mais sur Android, sinon de prendre Samsung, Xiaomi aussi d'ailleurs, ils font des montres connectées.
Bien sûr.
Donc le mieux, c'est quand même de rester sur la même marque parce qu'il y a toujours une compatibilité qui est meilleure entre deux produits d'une même marque.
Ou alors vous prenez des montres Fitbit, Garmin,
alors,
etc.
Sinon, ça, c'est exactement. Les Fitbit, par exemple, ils ne font pas de smartphone, ils ont l'habitude, ils ont une application qui fonctionne parfaitement sur tous les smartphones.
Voilà, c'était un petit apéritif du sujet qu'on va évoquer dans quelques minutes sur RMC. Notamment, on va faire le point sur toutes les nouveautés smartphones de cette rentrée, de cet automne. Parce que c'est vrai que là, rentrée, ça fait un moment. Hein. Il est temps de retrouver le tuto de Raph.
RMC. Ceci est notre structure, une sorte de programme de chargement.
Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique ?
Le tuto de Raph.
Alors Raphaël, un mot sur l'actualité brûlante. Hein. C'est vrai que voilà, on est maintenant en couvre-feu depuis quelques heures, ce qui fait que on ne doit plus sortir de 21h à 6h du matin. Vous savez que c'est interdit. C'est un peu c'est la moitié d'un confinement finalement.
C'est hein. Ça, c'est un semi-confinement.
Voilà, le jour on peut sortir, mais la nuit on peut pas sortir. Sauf que si on est obligé de sortir, il vous faut une attestation. On avait évoqué ce sujet-là en mars dernier, justement quand il y avait ces attestations numériques qui sortaient. Il faut faire attention.
Il faut faire très attention parce que bah, comme quand ça s'est passé en mars, en avril, pendant le confinement, il y a des petits malins qui créent des fausses pages, des fausses attestations, et c'est très sensible parce que l'attestation, on met toutes ces informations personnelles. Il y a aussi des fausses applications qui, moi, à mon avis, vont apparaître parce qu'il y avait eu aussi ça pendant le confinement. Donc, un conseil très simple, faire très attention quand on recherche l'attestation parce qu'il y a plusieurs formats. Il y a le format PDF, celui qu'on imprime. Et puis, il y a surtout l'attestation numérique qu'on génère en ligne. Et c'est la plus sensible, puisqu'évidemment, puisque là, il y a un formulaire où on donne beaucoup d'informations.
Et qu'on est obligé de remplir à chaque fois.
Et qu'on est obligé de re-remplir, qu'on doit re-remplir à chaque fois. Donc, un conseil très simple. Si vous voulez ne pas vous tromper, faites attention au site sur lequel vous allez. Si vous cherchez, puisque comme tout le monde, on va tous rechercher attestation couvre-feu sur Google, par exemple, ou un autre moteur de recherche, eh bien, on ajoute un mot-clé, on fait attestation couvre-feu, gouv.fr. Comme ça, au moins,
on est sûr de tomber sur le bon site.
On est sûr de tomber sur le bon site parce que le site sur lequel on remplit l'attestation doit être un site officiel gouv.fr, en l'occurrence le site du ministère de l'Intérieur. Et on sait malheureusement qu'il va y avoir beaucoup de petits malins qui vont tenter de faire peut-être, comme on l'avait vu d'ailleurs pendant le confinement, des attestations payantes. Alors, il y en aura moins qu'avant parce que maintenant les gens ont compris. Mais le problème, c'est que ces sites, parfois, ils remontent dans les résultats Google et on croit que c'est des sites officiels et on va...
Et ils récupèrent vos données parce que forcément, on va rentrer nos noms, nos coordonnées, etc.
Alors c'est ça, il n'y a pas besoin de donner de l'argent pour se faire avoir, même s'il n'y a rien à payer. L'argent, c'est nous, c'est nos données. C'est-à-dire que si on récupère un nom, une adresse, un mail, un numéro de téléphone...
Ça a de la valeur.
Ça a beaucoup de valeur, ça se revend pour ensuite revendre à des sites, on va dire, peu regardants. Et puis ensuite, on va se recevoir des dizaines de newsletters, voire du courrier d'ailleurs, mais en général, on va se recevoir des newsletters.
Des appels
voire du phishing peut-être, donc c'est-à-dire des emails d'arnaque, voilà. Donc, faites très attention, vous voulez remplir l'attestation numérique, le site doit être gouv en .gouv.fr.
Voilà. Et on peut dire aussi à Google, bon, il faut saluer Google, ils font attention quand même.
C'est-à-dire
que maintenant, quand on tape attestation en général...
Ce matin, j'ai vérifié, on tape attestation couvre-feu, le bon site remonte en premier. Voilà. Mais on sait que ça peut évoluer.
Mais c'est vrai que Google a un rôle là-dedans aussi.
Bien sûr, ils ont un rôle et ils font beaucoup plus attention maintenant qu'avant. C'est vrai, on en parlait, je me souviens beaucoup pour le cas de l'Estar. J'en ai déjà parlé ici, les fameux visas. Alors, c'est plus tellement d'actualité pour le moment, mais où c'est vrai que pendant des années, on avait le visa qui coûte 14$ et on avait des versions payantes à 80$ qui remontaient sur Google avant le site officiel. Et c'est vrai que Google a un rôle à jouer là-dedans et en devant privilégier évidemment les sites officiels, mais après il y a les sites d'information, enfin c'est pas compliqué comme choix pour Google.
Il y a les liens sponsorisés, hein.
Et puis il y a évidemment
l'argent.
Et Google,
parce que moi j'ai un site où je vais faire payer plus cher les stats, je vais payer Google pour remonter dans les recherches.
Exactement.
9h23. Eh ben oui, on n'est pas que dans un monde de bisounours, les amis. C'est comme ça. Bon, dans un instant, on va découvrir les nouveaux iPhones, mais pas que. Certes, ils ont été annoncés cette semaine, mais il y a de sérieux concurrents aux nouveaux téléphones d'Apple. Revue de détail avec Raphaël et Nicolas Lelouch dans un instant sur RMC.
RMC,
9h10. Votre vie numérique.
François Sorel.
Raphaël Grabli.
Il est 9h30, vous êtes sur RMC, c'est le week-end des experts, c'est la vie numérique. Et à partir des 10h, vous retrouvez les paris RMC. Toujours à mes côtés, Raphaël Grabli. Et là, on rentre dans notre dossier de ce samedi. On va vous aider à choisir votre nouveau smartphone, sachant que on est à une période un peu particulière, charnière, en fin d'année, où énormément de nouveaux modèles sortent. Compliqué, très compliqué de s'y retrouver dans cette jungle des modèles. Quel smartphone choisir? Alors que Raphaël, Apple vient d'annoncer 4 nouveaux iPhones cette année.
Oui, c'est une première d'ailleurs. Avant, il y a 6-7 ans, c'était un iPhone tous les ans. Ensuite, on a eu 2 iPhones depuis l'iPhone 6. avec le 6 et le 6 Plus. Après, on a eu 3 iPhones, et puis maintenant, c'est 4. C'est-à-dire qu'on a 2 modèles d'iPhone 12 et 2 modèles d'iPhone 12 Pro, avec à chaque fois 2 tailles différentes, c'est-à-dire l'iPhone 12, c'est pas nouveau, le Pro, pardon, on a le Pro et le Pro Max, qui est très grand.
Et 6,1 pouces, 6,7.
Exactement. Et puis, on a maintenant l'iPhone 12, qui a d'ailleurs maintenant le même format, 6,1 pouces. Et on a un iPhone 12 mini. Alors, ça va être, je pense, enfin, moi, ça va être un gros coup de cœur, parce que je suis content qu'il y ait un smartphone petit format et compact, qui doit faire, je crois, 5,8 pouces, il me semble.
5,4.
5,4, pardon. Voilà. 5,4 pouces. Et donc, on a ces 4 iPhones avec des gammes de prix qui s'étendent aussi assez largement, de 800 euros pour le 12 mini, 900 pour le 12.
Alors, ça commence à 800, mais c'est Apple, hein, les amis.
Ça reste oui, Apple, oui. Hein, on va pas commencer. Alors, on commence sinon à 490 pour l'iPhone SE qui est sorti en début d'année.
Moins,
évidemment, il n'a pas les mêmes caractéristiques techniques.
Nicolas Lelouch est avec nous, Raphaël. Salut Nico.
Salut François, salut Raphaël, salut à tous les auditeurs.
Salut Nico.
Nicolas Lelouch, qui est journaliste à 01net.com depuis sa Côte d'Azur, c'est ça Nicolas?
Tout à fait, depuis Nice.
Voilà, ne me dis pas qu'il fait beau et que la mer est belle parce qu'on raccroche instantanément. Si c'est
on
ne dirait
rien du coup.
Alors Nicolas, son métier à 01, quand il n'est pas en train de se dorer la pilule à Nice, c'est de tester tous les smartphones possibles et inimaginables.
Mais Nicolas, c'est l'homme qui n'a jamais moins de 10 smartphones sur son bureau.
C'est ça, et dans son tiroir, on les compte par centaines. Bon, je plaisante, mais pas trop, hein, Nicolas, c'est vrai, hein.
C'est ça. Bah, je dis pour tout te dire, je suis parti avec 9 téléphones.
J'étais pas loin
de faire
la vérité,
des comparaisons photos. Donc oui, vous êtes près de la vérité.
Et
malheureusement.
Et Nicolas est le seul homme qui a un jean avec 9 poches.
C'est
parce
ça.
Que
exactement.
Et forcément,
c'est un treillis en fait.
C'est un treillis. Plus sérieusement, Nico, c'est sympa. Hein, t'as accepté de jouer le jeu et d'essayer de répondre aux questions des auditeurs et d'aider, de nous aider pour se retrouver dans cette jungle des smartphones. C'est ce que je disais, hein, Raphaël. C'est compliqué là. Il y a énormément de smartphones séduisants qui sortent et on en profite donc avec la sortie de ces nouveaux iPhones. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces iPhones nouveaux, ces iPhone 12 par rapport aux précédents?
Alors, ce qu'ils ont de nouveau, alors déjà, ce qui est important, c'est qu'ils sont pas plus chers. Et on aurait pu s'attendre qu'ils soient plus chers. Pourquoi? Parce qu'ils sont compatibles 5G. Alors même si pour le moment on n'a pas de 5G en France, mais c'est vrai que les concurrents, notamment par exemple Samsung ou Huawei, quand ils vendent de la 5G, c'est 100 euros de plus que le 4G. Là, ils ont mis de la 5G. Ils ont mis aussi l'écran OLED, on en parlait tout à l'heure, dans les iPhone 12 et 12 mini. L'année dernière, l'iPhone 11, c'était du LCD. Mais je vais quand même rebondir sur un message sur Direct Studio de Julien. Il nous dit, les iPhones, c'est de l'arnaque. Les gens achètent ça une fortune. Un mois de salaire pour ça, c'est aberrant, etc. Nicolas, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que finalement, les autres smartphones Android ont aussi beaucoup augmenté, est-ce que les iPhones aujourd'hui sont, à tes yeux, beaucoup plus chers que les autres ou plus chers que les autres pour un même équipement?
Pas tellement. Il y a toujours deux manières de concevoir le prix d'un téléphone. Déjà, c'est le prix à l'achat. Il y a le prix dans la durée. Et ce qui se passe avec Apple, qui n'est pas le cas des autres constructeurs, c'est que déjà, il y a une très, très basse décote. C'est-à-dire qu'un iPhone que vous allez acheter 809 euros le mois prochain, il risque de coûter encore dans les 800, 750 euros l'année prochaine.
Ah bon? Du coup, je vais perdre que 50 euros, en fait, sur une année.
Quasiment. Après, évidemment, quand les nouveaux iPhones vont sortir, c'est logique qu'il va y avoir une baisse de prix. Mais en tout cas, sur toute l'année de commercialisation de l'appareil, il va conserver sa valeur, ce qui n'est pas le cas chez les autres constructeurs, où on va rapidement perdre en valeur. Et surtout, et là, je pense que Raphaël est d'accord avec moi, les iPhones ont très certainement le meilleur entretien par un constructeur du marché, dans le sens où il y a au moins 5 ans de mise à jour chez Apple, ce qui veut dire que pendant 5 ans, votre téléphone va recevoir des mises à jour et des nouvelles fonctionnalités, et que nous, on fait les tests en laboratoire à 01net. Ce qu'on a constaté, c'est qu'un iPhone 6S qui est sorti il y a 5 ans, avec la dernière mise à jour iOS 14 qui est sortie cet automne, eh bien, il a autant d'autonomie qu'avant et il est aussi fluide. Et ça, c'est pas le cas des autres constructeurs.
Oui, un smartphone Android de 2015, est-ce qu'il fonctionne? Déjà, il n'est pas mis à jour sous la dernière version d'Android.
Il fonctionnera très certainement. Peut-être pas aussi bien qu'au démarrage, mais en tout cas, en effet, il y aura pas de mise à jour sur ces smartphones-là. Donc du coup, voilà, tout ce que j'ai envie de dire au niveau du prix de l'iPhone, c'est qu'il faut le relativiser et peut-être le diviser sur le nombre d'années d'utilisation.
Voilà,
c'est le cas de tous les téléphones. Hein,
c'est-à-dire que c'est un paramètre à prendre en compte. Se dire que je vais peut-être payer plus cher un smartphone, alors là, on évoque l'iPhone, bien sûr, mais se dire que je peux le garder si je le casse pas, si je pète pas l'écran, enfin, si j'en prends soin, je peux le garder 5 ans. et il aura au moins une durée de vie de 5 ans, parce que même le 6S qui est sorti il y a 5 ans, il va avoir donc une mise à jour là, iOS, il a eu la mise à jour iOS 14, mais il va être fonctionnel encore plusieurs années, Nicolas, on est d'accord?
Bien sûr, oui, évidemment, donc c'est vraiment ce qu'il faut rappeler sur les smartphones haut de gamme.
Mais
ça coûte cher, mais la durée de vie est plus longue.
D'ailleurs, moi je connais beaucoup de gens qui vraiment misent que sur du Apple et qui veulent toujours avoir le dernier smartphone Apple, et ce qu'ils font, et je connais beaucoup de gens qui font ça, ils le revendent tous les ans. Ils achètent un iPhone, le 11 Pro, l'année dernière, ils l'ont acheté 1 150 €. Aujourd'hui, ils le revendent, 300 € de moins, parce qu'effectivement, comme disait Nicolas, il y a une valeur résiduelle qui est assez importante. Et ils rachètent le nouveau au même prix. Donc, résultat, ils ont 300 € à rajouter. Oui. Mais 300 € divisé par 12 mois, ça fait 25 € par mois. Donc, finalement, c'est vrai que si on prend ce pli, entre guillemets, si on aime ça, si on aime les derniers mobiles, alors je parle d'Apple, mais
c'est-à-dire qu'il faut quand même une grosse somme d'investissement au départ.
Exactement. Et surtout, en prendre soin, parce que c'est ça le plus important. Parce que si on commence à avoir de la casse, des rayures, là, c'est
le téléphone perd évidemment en
forcément,
valeur.
Il perd énormément en valeur.
Kevin est avec nous au 32-16, c'est notre premier auditeur. Il a une question intéressante. Bonjour Kevin.
Oui, bonjour à tous.
Bienvenue Kevin.
Bonjour Kevin.
Bonjour. Alors, ma question est la suivante. Mon épouse a un iPhone 7 qui arrive en fin de vie. Il commence à avoir quelques ratés, quelques petits bugs, et puis la batterie a perdu de son efficacité. Elle souhaiterait changer pour un nouveau téléphone, mais qui resterait dans le même format. Donc un petit téléphone, entre guillemets, et qui ait une super capacité à faire des photos.
D'accord. Le budget, Kevin, on a une idée?
Le budget aux alentours de 400-450 €.
D'accord. Alors juste une petite précision, on parlait de l'iPhone 6S tout à l'heure, qui avait une super longue durée de vie. C'est important ce qu'a dit Kevin. En général, pour que cet iPhone 6S dure autant de temps, il faut changer la batterie, hein,
oui.
Nicolas?
Oui, c'est une bonne remarque. Je comptais la faire justement, vous dire que même si vous décidez de changer de téléphone parce que vous avez envie d'avoir un nouveau produit, si vous voulez donner votre iPhone 7 à un proche, n'hésitez pas à lui dire de changer la batterie, parce que ça va vraiment donner une seconde vie au téléphone et lui redonner un petit peu plus de puissance.
Et ça coûte quoi, une trentaine d'euros, quarantaine d'euros?
Je crois que chez Apple, ça va être 49 € pour l'iPhone 7, mais après, oui, généralement, c'est
vaut mieux. Personnellement, si c'était moi, je le ferais chez Apple. Si je peux mettre la somme, je le ferais plutôt chez Apple.
Et c'est pour ça, Kevin, que peut-être le téléphone de votre femme commence à moins bien marcher, parce que la batterie, en fait, est tellement endommagée que le téléphone est obligé de tourner à une cadence et à une rapidité moindre. Et je pense que si, par exemple, votre femme changeait la batterie de son iPhone 7, elle se retrouvait avec un téléphone beaucoup plus performant qu'aujourd'hui.
Oui, d'accord.
Mais bon.
En tout cas, je suis très content que Kevin parle de smartphone de petit format, parce que ça fait longtemps que je déplore qu'il y ait une sorte d'inflation comme ça de la taille d'écran. C'est vrai que c'était poussé aussi un moment par les fabricants chinois. Oui. Et là, les fabricants américains commencent. Alors, il y a eu Samsung qui avait fait un super smartphone il y a 2 ans. C'était le S10e qui était absolument génial en petit format.
Mais aujourd'hui, il n'a pas rencontré le succès escompté d'ailleurs.
Et non, alors que c'était une petite perle ce téléphone. Et là, je pense que je vais me tourner vers Nico. Mais smartphone petit format, bon en photo. Je pense que il n'y a pas photo sans faire de mauvais jeu de mots sur la marque qu'il faut, surtout à ce prix-là, c'est-à-dire dans les 400 €. Notamment, je pense au Pixel 4a. Qu'est-ce que tu en penses, Nicolas?
Bien sûr, c'était le choix aussi que j'avais suggéré. Déjà, il y a l'iPhone
Pixel
12
4a
mini,
de chez Google, je précise.
Le Pixel, oui. L'iPhone 12 mini dont on a parlé tout à l'heure est un super produit dans ces critères-là, mais le prix n'est pas bon.
Oui, il est à 800 €.
On peut l'éliminer. Par contre, chez Google, Google qui est une marque américaine, eux, ils essayent de faire vraiment des petits téléphones, parce qu'il y a un public aux États-Unis et en Europe pour les petits téléphones. Et donc, on a une gamme chez eux, sur le milieu de gamme, qui est petite et qui est surtout excellente en photo. À vrai dire, c'est peut-être les meilleurs du marché.
Donc, je pense que c'est les meilleurs.
Il y a deux produits que je pourrais vous suggérer. Il y a d'abord le Pixel 4a, qui est un tout petit téléphone. Il est vraiment minuscule, il est plus petit que votre iPhone 7. Et lui, il va coûter 349 € et il a un seul appareil photo qui est excellent. Et si vous avez envie de mettre un petit peu plus, pour 499 €, on a le Pixel 4a 5G qui, comme son nom l'indique, est compatible 5G, dispose d'un meilleur processeur et a deux appareils photo. Le second, c'est un ultra grand angle et là aussi, c'est excellent.
Il est un peu plus grand, non ?
Il est un peu plus grand, mais ça reste dans des proportions raisonnables.
D'accord.
Ça sera un petit peu plus grand que l'iPhone 7, selon moi. Mais c'est pas non plus des grands téléphones. Google n'a pas sorti de grands téléphones cette année. Donc, en tout cas, ces deux Pixel, Pixel 4a et Pixel 4a 5G, correspondent parfaitement à la description.
Voilà, en tout cas, si vous cherchez un smartphone pas cher, bon en photo, Google Pixel. Je pense qu'il n'y a pas un seul spécialiste tech en ce moment qui vous dira que c'est pas le meilleur choix, parce que Google en photo, c'est exceptionnel. Ils arrivent à faire des choses absolument incroyables. Et on peut peut-être aussi mentionner le Pixel 5, du coup, qui vient de sortir.
Oui, qui est un peu plus cher.
Mais qui est un peu plus cher, mais alors c'est assez étonnant. Ils ont une stratégie très différente, Google, parce que là aussi, il est plus cher, mais il est moins cher que les autres haut de gamme, puisqu'il est dans les 650 euros, il me semble, Nico.
Oui, il est à 630 euros, et en fait, ce qu'ils ont fait sur celui-là, et c'est une méthode très intelligente, et ça prouve en fait que Google essaye vraiment de se distinguer du reste du marché, c'est qu'au lieu de faire du haut de gamme comme les autres, c'est-à-dire avec une grosse fiche technique impressionnante, mais avec des choses que la plupart des gens ne comprennent pas, ils se sont contentés de faire des choses que les gens comprennent. Donc, par exemple, ils mettent de la recharge sans fil, ils mettent de la recharge rapide, ils mettent un bel écran, mais ils s'en foutent de mettre le processeur le plus performant du marché. C'est ce qui permet de diminuer les coûts. Et c'est vrai qu'on a un très bon appareil à 629 euros. On est hors budget pour ce que vous nous demandiez, mais en tout cas, le Pixel 5 est vraiment excellent.
Kevin, voilà, ça vous va ?
Parfait. Très bien.
Une petite chose aussi, pourquoi est-ce qu'on apprécie beaucoup Google ? C'est parce que, comme Apple, ils sont un peu à l'origine de la partie matérielle et logicielle, puisqu'Android, c'est Google. Et donc, on a des mises à jour, enfin, les Pixels auront aussi une durée de vie et des mises à jour bien plus rapides que la concurrence. Le seul problème de Google, c'est qu'ils font des super produits, ils apprennent encore un petit peu à les produire et à les vendre. Par exemple, aujourd'hui, là, ce matin, le Pixel 5, il n'est pas disponible sur le site de Google parce qu'il n'y a plus de stock.
Il n'y a plus de stock.
Voilà, et c'est vrai que pour devenir vraiment un géant du téléphone, il va falloir...
Il faut avoir l'expertise d'un Apple, par exemple.
De la distribution. Ils ne savent pas encore distribuer, ils apprennent, ils vont apprendre vite. Voilà, Google.
Ça fait quelques années quand même qu'ils sont
là. Oui, c'est vrai. J'aimerais vraiment qu'ils apprennent à mieux distribuer, qu'ils arrivent à mieux distribuer, parce que c'est des téléphones qui sont tellement incroyables qu'on aime tellement qu'on aimerait pouvoir qu'on puisse les trouver plus facilement.
Bon, en tout cas, vous qui nous écoutez, sachez que c'est une alternative sérieuse aujourd'hui aux iPhones, par exemple les Pixels. On revient dans un instant. Christophe sera avec nous. Il est propriétaire d'un iPhone 10S. Il souhaiterait changer. Il hésite entre le 11 Pro ou alors peut-être le 12. C'est une question de budget, je pense. Il va nous expliquer tout ça dans un instant. Nicolas Lelouch est toujours avec nous. On revient dans un instant et on vous aide à choisir votre nouveau smartphone. En ce samedi jusqu'à 10h, vos questions 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h. Votre vie numérique. François Sorel. Raphaël Grabli.
Nous voilà de retour, 9h46. Dernière ligne droite de ce week-end des experts, la vie numérique. Raphaël Grabli, comme chaque samedi, à mes côtés, et Nicolas Lelouch, journaliste à 0net.com. On vous aide à choisir votre nouveau smartphone. Raphaël, Nicolas, Christophe est avec nous au 32-16.
Oui, bonjour François, bonjour Raphaël.
Bonjour Christophe.
Et Christophe, je vous présente aussi Nicolas, journaliste à 0net, qui teste à longueur d'année des dizaines, voire des centaines de smartphones. Donc, il est là aussi pour vous donner des conseils.
D'accord. Donc déjà, je vous pose un petit dilemme en fait. Je vous appelle, je suis comme l'un de vos auditeurs précédents, je suis un peu un Apple addict. Hein. Je souhaite régulièrement changer mon iPhone et actuellement j'ai retardé l'achat de mon dernier iPhone, le 11 Pro, en attendant la sortie de l'iPhone 12 pour savoir exactement, pour pouvoir orienter mon choix. Et actuellement, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut que j'achète un 11 Pro, quitte à l'acheter en reconditionné, ou alors plutôt m'orienter vers un iPhone 12, mais pas l'iPhone 12 Pro, uniquement sur l'iPhone 12. Sachant que l'iPhone 12 a quand même une puce plus puissante, d'après les dires d'Apple. Donc voilà, j'ai un petit dilemme et je vous avoue que j'ai du mal à trouver une réponse.
La différence, Christophe, je pense qu'au niveau du prix, on va retomber sur à peu près la même chose. Même pas sur du reconditionné, mais déjà, j'ai envie de dire le Black Friday. Parce que le 11 Pro, en fait, il est plus vendu chez Apple. Donc maintenant, vous avez du stock chez les distributeurs. Donc il est,
je rappelle, le 11 qui existe, qui lui est toujours.
Ils ont exactement
dans le
catalogue. Apple a gardé en gamme le 11, mais pas le 11 Pro. Parce qu'il y a le 12 Pro. Oui. Le 11 Pro, il était vendu 1159 euros l'an dernier. Le 12 coûte 900 euros. Donc il y a un écart de 250 euros. Moi, je pense que cet écart de 250 euros
va disparaître
pendant le Black Friday. C'est-à-dire que plutôt que d'acheter tout de suite du reconditionné, attendez le Black Friday, vous aurez, je pense, du 11 Pro au prix du 12 aujourd'hui. Après, la question, la principale différence, c'est le troisième appareil photo. Je pense à choisir que le 11 Pro apporte, ça dépend si vous aimez la photo aussi, Christophe, mais vous avez un téléobjectif et vous avez un zoom qui est très sympa et qui permet de faire des photos un petit peu différentes. Parce que sur le cœur du téléphone, alors après il y a aussi l'aspect 5G qui est important, mais l'aspect 5G ça dépend combien de temps vous gardez vos téléphones. Si vous les revendez souvent, ça va finalement vous verrez pas la différence parce que la 5G ça va arriver en début d'année, donc ça va pas changer grand chose. Je sais pas ce qu'en pense Nicolas.
Je suis plutôt d'accord avec toi, Raphaël. Après, j'ai quand même tendance à penser que l'avantage quand on achète un 12 par rapport à un 11 Pro, c'est que techniquement, on gagne une année de durée de vie et surtout, on gagne un petit peu de décote. C'est-à-dire que, oui. A priori, notre auditeur a l'air de changer de téléphone tous les deux ans, vu qu'il a un iPhone XS. Donc, dans deux ans, il y a des chances que l'iPhone 12 coûte plus cher que l'iPhone 11
Notamment
Pro.
Notamment parce qu'il sera 5G,
qu'il a un design qui normalement sera un petit peu plus moderne, vu que Apple change de design cette année et que connaissant Apple, il n'y aura pas eu de changement majeur d'ici deux ans. Donc du coup, on peut imaginer quand même que le 12 sera un petit peu plus à la mode. Donc, après, c'est vrai que le 11 Pro, c'est de l'acier, c'est du verre mat, c'est justement ce troisième appareil photo. Et donc, que ça peut valoir le coup si vous aimez vraiment un petit peu cet aspect.
Pour symboliser, si on aime vraiment la photo, on prend plutôt le 11 Pro. Sinon, on mise plutôt sur le 12, qui aura une durée de vie un peu plus importante et qui est 5G, ce qui servira à rien pour le moment, mais qui sera très utile si on veut le revendre, notamment dans deux ans.
D'accord. Ok.
Dilemme compliqué, hein, Christophe. Hein, c'est pas facile.
Oui.
Hein. C'est pas
tout
facile.
À fait, oui.
C'est clair.
Mais en tout cas, je vous remercie. Ça m'aide un petit peu à orienter mon choix, donc je vous remercie.
Parfait. Merci, Christophe. Bonne journée.
Je vous en prie. Au revoir.
Merci, Christophe. Raphaël.
Oui, je voudrais relancer Nico sur une autre marque qui est dans l'actualité cet automne, c'est Samsung. Hein. Alors on va pas parler du pliable parce que je pense que c'est vu le prix, ça ne touchera quasiment personne. On est hors sujet. Par contre, sur le Galaxy S20 FE, qui est une sorte de nouvelle version comme ça de leur Galaxy S20. Alors les pauvres, ils l'ont lancé en mars, donc en plein début du confinement, donc je pense que ça a pas tellement marché. Et donc là, ils le ressortent en version moins chère. Qu'est-ce que tu en penses, Nico, de ce téléphone dont on voit d'ailleurs beaucoup de pubs en ce moment?
Il est très étonnant ce téléphone parce qu'habituellement Samsung fait des téléphones très chers et il y a des marques chinoises comme Xiaomi, comme OnePlus, on en parlait tout à l'heure, qui arrivent et qui font des appareils tout aussi bien, beaucoup moins chers. Et là cette année en fait la concurrence elle vient de Samsung lui-même. C'est qu'ils ont sorti un appareil qui est selon moi meilleur que leur S20 à 1000 €, alors que cet appareil ne coûte que 650 ou 750 €. Enfin, quand je dis que, évidemment, tout est relatif, en fonction du modèle que vous choisissez. Et c'est pour moi un de mes gros coups de cœur de cette fin d'année. Je pense d'ailleurs que sur les ventes de Noël, hein, on peut faire des paris, mais ça sera certainement celui qui va le plus se vendre dans l'univers Android.
D'ailleurs, Samsung pousse énormément ce téléphone. Hein,
ils font beaucoup de pubs. Pour moi, c'est le concurrent direct de l'iPhone 11 et de l'iPhone 12. C'est-à-dire déjà, il y a 6 couleurs différentes, ce qui est rare chez Samsung. Donc, ils veulent vraiment attirer les jeunes. Mais après, là où ils auraient pu se contenter justement de mettre des couleurs un petit peu jolies et de mettre un prix cassé, ils ont vraiment... était sérieux au niveau des caractéristiques techniques. Vous allez avoir un processeur haut de gamme, de la recharge rapide, de la recharge sans fil, de l'OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il n'y a pas tout le monde qui comprend ce que ça veut dire, mais en gros, c'est les meilleurs écrans du marché.
C'est très fluide,
Encore plus fluide. Et tout ça, c'est à deux prix. C'est 650 € en version 4G et 750 € en version 5G. Et si vous nous écoutez et que vous hésitez justement à acheter un S20 FE, sachez qu'on vous recommande vraiment le modèle 5G parce qu'il n'est pas seulement 5G, il dispose d'un meilleur processeur, ce qui le rend plus puissant et plus endurant. Donc franchement, la différence de 100 € elle vaut le coup.
Nicolas, avec Raphaël, on a envie de te poser cette question et je pense que Raphaël aussi complétera. Quel est ton top 3 actuel au niveau des smartphones? Voilà, tes 3 meilleurs.
C'est toujours une question délicate parce qu'il y a tellement de produits qu'on peut facilement les oublier.
C'est pour ça que je te la pose, je sais que c'est compliqué.
C'est bien, merci beaucoup, c'est gentil. J'ai 1 minute 30, allez. Non, je dirais, on en parlait tout à l'heure, le Pixel 5 de Google que Raphaël et moi avons testé, c'est un vrai coup de cœur. Ça serait certainement celui que je préfère en ce moment. Parce qu'il est petit, parce qu'il a une très 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 bonne batterie, un excellent appareil photo, que le design est réussi et donc il aligne vraiment tout ce qui est génial sur le marché. Je mettrai aussi le Galaxy S20 FE dans ce classement parce que pour une fois que Samsung, qui est certainement la marque la plus populaire au monde, se met à proposer un produit au très bon rapport qualité-prix, bah c'est bien à la fois pour les testeurs mais aussi pour les consommateurs qui font une bonne affaire.
Et après, le troisième.
Le troisième, alors c'est de l'ultra haut de gamme, ça s'appelle Oppo Find X2 Pro. C'est un téléphone qui ne ressemble à aucun autre parce qu'il a un dos en cuir végétal ou en céramique, qu'il a un écran d'exception, un excellent appareil photo avec un zoom optique x5 et numérique x50. Et ce téléphone est vraiment impressionnant. Mmh. Il coûte cher, mais selon moi, il montre que cette marque Oppo, on devrait la surveiller et que dans les deux prochaines années, elle pourrait prendre une place importante.
Ça s'écrit Oppo, ça s'écrit O2PO. Hein,
O2PO,
qui n'est pas très connu encore, mais qui mérite d'être découvert.
Et je me permets de compléter aussi. Alors bon, les iPhones, on ne les a pas encore testés, donc on ne peut pas encore les recommander ou pas. Moi, l'iPhone 12 mini, je pense que ça va être sympa. Mais il y en a un autre, moi, un coup de cœur aussi que je suis en train de tester, c'est le OnePlus 8T. Qui est absolument génial aussi parce que l'interface, elle est hyper épurée, très très fluide. Il coûte moins de 600 euros. Il est à 599 euros et il est absolument remarquable.
Nico, là encore, en 15 secondes, j'ai un budget maxi de 300 euros. Tu nous aiguilles vers quoi ?
Je vous aiguille vers du Xiaomi qui avec sa gamme Redmi Note, le Redmi Note 9 Pro qui est son dernier modèle, fait un excellent smartphone d'entrée de gamme qui est à peu près bon en tout. Et si vous voulez mettre 50 euros de plus, le Pixel 4a dont on parlait tout à l'heure.
Par contre, on évite le Redmi Note 9, hein.
On évite le Redmi Note 9, on prend vraiment le Redmi Note 9 Pro parce qu'il est vraiment pas bon ce Redmi Note 9. Ouais. Et même s'il partage le nom et qu'il coûte 50 euros de moins, ça vaut pas du tout le coup.
Vaut mieux prendre le Redmi Note 8T à la limite, qui est meilleur en fait. Ils sont un peu foirés sur le 9 Redmi, donc on évite le Redmi Note 9.
Donc on répète, Redmi Note 8T et Redmi Note 9 Pro, c'est les deux meilleurs chez Xiaomi.
Merci Nico.
Merci beaucoup à tous les deux de m'avoir.
Nico. Et vous pouvez lire Nico et revoir Nico en vidéo sur 01 TV et sur 01net.com pour lire ses articles. Raphaël, on sera là la semaine prochaine.
Avec plaisir, François.
La vie numérique, chaque samedi 9h-10h sur RMC.